Bonsoir, comment allez-vous? Un peu sonné? Que restera-t-il de ce Noël? Vous souvenez-vous de vos Noëls d'enfants? C'était l'année où j'ai reçu mon vélo, c'est l'année où nos parents ont divorcé. S'il n'y a pas d'événement majeur repère, il y a parfois les photos. Autrefois, la photo était une affaire d'adultes. Seuls les parents photographiaient. Les enfants n'étaient pas habilités à manier un appareil cher, fragile et assez compliqué. Le selfie avec un téléphone était beaucoup plus improbable qu'une marmotte emballant une tablette de chocolat. Peut-on se photographier tout seul près d'un sapin? Oui, bien sûr. Peut-on se photographier tout seul en train de découvrir un cadeau? Non. Il manque une main. Et puis, surtout, l'effet surprise, par définition, arrive par surprise. Il faudrait connecter son téléphone à ses émotions et dès qu'on est surpris, claque, photo. Bon, malgré toute cette belle technologie, on n'a jamais réussi à photographier le Père Noël. Non, je ne parle pas des gens qui se déguisent en Père Noël, je parle du vrai Père Noël. Nous avons des dessins, mais de photos, point. Est-il barbu seulement?
Bonjour, je m'appelle Lilian, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir pourquoi, sur les vieilles photos, les hommes avaient tous des barbes ou des moustaches.
C'est vrai Lilian, merci pour ta question. Nous la proposons à un écrivain et historien, Jean-Yves Le Naour, des barbes et des moustaches sur les vieilles photos.
Alors oui, aux alentours de la Belle Époque, fin 19e, début 20e siècle, tous les hommes, quasiment tous les hommes avaient au moins une moustache, sinon la barbe. Mais attention, il s'agissait
d'une... Mais longue, pas comme la vôtre, qui est courte.
Oh, il y avait des courtes, il y avait des longues, mais en tout cas, elles étaient bien taillées la plupart du temps. Ah oui, il y avait même des brosses, il y avait même des crèmes pour les moustaches, pour les faire luire, pour les faire rebiquer, parce qu'il y avait différentes sortes de moustaches. Il y a des moustaches en croc, des moustaches en guidon de vélo, des moustaches à l'impérial, c'est-à-dire repliées à l'extrémité, des moustaches fines et pointues, avec des favoris, des grandes barbes. Mais toujours le poil bien taillé, parce que c'est un attribut de virilité. Pour montrer qu'on est un homme, on a du poil. Hein. D'ailleurs, les soldats de 14-10 s'appelleront les poilus. Les poilus, c'est pour montrer qu'on est viril, qu'on est courageux. C'est le poil symbolique. Et puis, c'est un poil qui est bien taillé. C'est une façon de montrer qu'on a dompté l'animalité, la sauvagerie. On est civilisé. Mais c'est une question de mode. Justement, avec la Première Guerre mondiale, on voit les Américains qui débarquent en France à partir de 1917. Et eux, ils ne portent pas de moustache. Et ça va être le début un petit peu de l'évolution de la mode. Et on va voir la moustache qui va rétrécir jusque dans les années 30 où la moustache est réduite à un timbre-poste. Vous voyez, quand vous voyez Hitler, il a une toute petite moustache. Vous voyez, c'est la réduction de la moustache. Et après 45, la moustache disparaît. Elle réapparaît avec les années 70 parce que ce sont des années chevelues. C'est des années où même...
Les babas.
Les babas cool, les barbes, les cheveux longs.
La liberté.
Et voilà, le poil libre. C'est terminé le poil domestiqué. Les femmes même ne s'épilent plus, ni sous les bras, ni les poils pubiens,
ni les jambes.
C'est la liberté, ni les jambes, bien sûr. Et le poil redisparaît à nouveau dans les années 80 à 2000. Et aujourd'hui, figurez-vous que la barbe fait son grand retour, et même la moustache. Donc, moi qui porte la barbe depuis une quinzaine d'années, j'étais has-been et maintenant je suis dans la mode.
C'est bien, changez rien. Jean-Yves Le Naour est historien et écrivain. Il a écrit énormément d'ouvrages que vous trouverez sur le site des Petits Bateaux, dont Le XXe siècle, édité chez Hachette Littérature. Ce soir, nous saurons pourquoi quand on est petit, il y a des aliments qu'on n'aime pas et puis finalement, quand on est grand, on finit par les aimer, voire les adorer. Nous saurons quel est le café le plus cher du monde et combien nous avons de cheveux sur la tête. Ces questions m'ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Antonin et je voudrais savoir quel est le premier prénom qui a existé au monde. Merci, au revoir.
Antonin vous demande quel est le premier prénom qui a existé au monde, Marie-Odile Merniac.
Ah, mystère. Après tout, Antonin, tu peux même imaginer que c'était le tien le premier. Mais en fait, le premier homme remonte à si longtemps qu'il est impossible de deviner comment il a pu s'appeler, de savoir comment il a été nommé. Alors, pour la Bible, bien sûr, en tout cas, un livre auquel se réfèrent aussi bien les juifs, les musulmans que les chrétiens, le premier homme s'appelait Adam. Alors, c'est un prénom idéal, parce qu'en fait, Adam veut dire argile rouge. Dieu avait façonné l'homme à partir d'une poignée d'argile, donc voilà, un prénom qui est bien en adéquation avec ce premier homme.
Et Ève, alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ève, ça veut dire aussi première femme. Il y a beaucoup de prénoms qui indiquent... Le rang, la place, la création, on en trouve en Afrique par exemple, Mamadou ça veut dire le premier, l'aîné, Samba c'est le deuxième, etc. On numérotait comme ça les enfants, ça se faisait aussi chez les Romains, Primus, Secundus, on numérotait les enfants en fonction de leur ordre d'arrivée.
Alors après, Moussekundou, ça n'existe plus, mais il reste Quentin.
Oui, Quentin, c'est ça, ça veut dire cinquième, sixth, qui revient à la mode. Sixteen aussi, son féminin, ça veut dire le sixième, et Octave, le huitième. On donne Quentin maintenant même à un aîné.
C'est curieux parce qu'on a encore beaucoup d'Adam et beaucoup d'Ève, on n'a pas de Cain.
Cain et Abel étaient les deux frères, Cain a tué Abel, donc dans un cas, on donnerait à un enfant un prénom de criminel en quelque sorte, enfin de fratricide. Et dans le deuxième cas, le prénom de celui qui s'est fait tuer, bon,
ça porte
ça
pas
n'est
chance.
Pas forcément sympathique à donner.
Les livres de la généalogiste Marie-Odile Merniac sont édités chez Archives et Culture. Madame Schigeling, conversation dans le bureau entre Eliane et Marjorie. Ah, c'est Setanta ? Non, répond Eliane, c'est Setanta.
Les petits bateaux sur France Inter.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des objets qui changent complètement d'aspect suivant l'endroit où ils sont. Quand on trouve un caillou, par exemple, dans l'eau, il est beau, il brille, il est dans l'eau, on le ramasse. Et puis quand il a passé un petit moment au fond de sa poche ou en train de prendre la poussière sur la table de l'entrée, il est plus joli du tout. C'est la même chose pour les cheveux. Quand ils sont sur la tête, ils sont beaux, ils sont brillants, on a envie de les regarder, de les caresser. Et puis quand ils sont au fond d'une douche ou sur une vieille brosse, ben, on les trouve plus jolis du tout.
Je m'appelle Elsie et j'ai 8 ans et demi. Et j'aimerais savoir combien on a de cheveux sur la tête.
Bonsoir Elfie, combien a-t-on de cheveux sur la tête? Alors vous qui avez beaucoup de machines dans votre laboratoire Delphine Tria, puisque vous êtes responsable du laboratoire d'évaluation instrumentale capillaire chez L'Oréal, avez-vous des machines à compter les cheveux?
On sait que sur une tête, on a entre 120 000 et 150 000 cheveux. Mais ce nombre, en fait, va évoluer d'un individu à l'autre, mais aussi va évoluer lorsqu'on est jeune ou lorsqu'on est âgé. Il va évoluer aussi d'une saison à l'autre, mais aussi d'un jour sur l'autre. Est-ce que vous savez que vous perdez environ une centaine de cheveux par jour ?
Tant que ça ?
tant que ça. Et mais en fait, c'est infime par rapport à la quantité totale. Tout à l'heure, je parlais de 120 000 à 150 000 cheveux. C'est tout petit, c'est rien du tout. Mais par contre, c'est le cycle, c'est naturel, c'est normal et c'est le cycle de vie du cheveu.
Vous dites qu'on en perd une centaine par jour, ce qui paraît beaucoup. Quand on en voit 10 dans une douche, c'est énorme et c'est monstrueux. En revanche, quand on en a 150 000 sur la tête, ça fait pas beaucoup. Et j'ai l'impression, est-ce qu'ils sont très très compactés sur la tête? Est-ce que c'est très serré?
Alors en fait, la densité de cheveux que l'on a sur la tête, c'est-à-dire le nombre de cheveux au centimètre carré, par exemple, va varier d'un individu à l'autre. Le diamètre du cheveu va varier d'une personne à l'autre, mais aussi le nombre de cheveux par centimètre carré. Ce qui va faire l'impression de volume, qui va donner le volume global sur la tête. Plus ou moins fin, plus ou moins dense, plus ou moins épais.
Il y a des produits pour changer ça? Un peu plus de volume?
Oui, on a des produits qui sont spécifiques pour les cheveux fins, qui vont donner plus de volume à la chevelure. Par contre, les personnes qui ont beaucoup de cheveux ondulés, frisés, et qui voudraient avoir moins de cheveux ou paraître...
Je paraîtrais bien, oui.
Oui. donc là, par contre, on a aussi des produits pour réduire l'impression de volume. C'est des produits qui vont être, par exemple, qui vont limiter la sensibilité à l'humidité, par exemple. Ou alors qui vont faire que les boucles vont être mieux dessinées. Donc, il existe des produits, en fait, pour tout type de cheveux. Donner du volume aux cheveux, c'est aujourd'hui une problématique sur laquelle on travaille beaucoup. Il y a différentes façons d'y arriver. On a certains produits qui marchent dans certains cas, d'autres pas. Et voilà, on voudrait faire encore mieux. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille, mais...
C'est un sujet de recherche?
Oui, c'est un sujet de recherche. On a des formules, on a des produits. On peut augmenter le diamètre du cheveu, mais c'est de l'ordre de 2 microns. Est-ce qu'on va voir vraiment un effet sur la chevelure globale? Oui, mais après c'est dans certaines conditions. Donc c'est un phénomène qui est très complexe.
Oui, mais 2 microns, Delphine Tria, multiplié par 150 000, ça fait pas mal.
Oui.
Finalement, non, au bout du compte.
On doit le voir. Mais c'est difficile à mesurer aussi.
Ça paraît futile, mais c'est important, les cheveux. D'abord, tous ceux qui ont les cheveux raides les voudraient frisés, tous ceux qui les ont frisés les voudraient raides. Et puis, qui n'a jamais eu envie de mourir en sortant de chez le coiffeur?
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 8 ans. Je voudrais vous poser une question. Quel est le café le plus cher du monde et qu'a-t-il de différent? Merci.
Le café le plus cher du monde. Eh bien ça, c'est une question qui est relativement intéressante parce que, vous vous en doutez, dans le café comme dans le reste, il y a un certain nombre de caractéristiques gustatives, un certain nombre de caractéristiques propres au produit, et puis il y a aussi, évidemment, une petite part, entre guillemets, de snobisme. Et vous avez des cafés qui sont réputés très chers, simplement parce que leur nom est connu, parce que le marketing a été bien fait. Moi, je donne toujours comme exemple le fait que, je suis capable d'en parler longtemps, l'Éthiopie est un pays où vous avez des cafés qui sont relativement abordables en termes de prix, mais qui sont probablement par les meilleurs au monde. Il y a aussi des très bons cafés au Kenya, il y a très bons cafés en Amérique latine, il y a d'excellents cafés aussi en Asie, notamment je pense au Nouvelle-Guinée-Papouasie qui est un café peu connu, mais qui est un des rares cafés que je connaisse avec une saveur salée et qu'on reconnaît entre mille à cause de ça.
Ah, le café d'Haïti, il est un peu salé aussi.
Alors le café d'Haïti, malheureusement, je ne vais pas vous en parler beaucoup parce qu'on n'en trouve quasiment plus du fait de la situation politique du pays, mais c'est vrai que le café d'Haïti, j'aurais pas dit salé mais extrêmement corsé, c'est un café qui était extrêmement puissant et que les torréfacteurs traditionnels utilisés pour mettre dans leur mélange. Parce que ça donnait du corps, ça donnait beaucoup de force. Un café de Haïti pur, c'était pas très bon. Mais un café de Haïti en mélange, c'était souvent un apport déterminant pour les torréfacteurs. Alors, on n'en trouve plus aujourd'hui. Donc ça, je peux plus tellement vous en parler. Et c'est dommage. Mais c'est malheureusement le résultat de problèmes politiques qui là me dépassent. Je suis pas géopoliticien. Et pour en revenir à la question, quel est le café le plus cher du monde? Alors, je crois pas dire de bêtises en disant que c'est ce qu'on appelle le Java Jumpit. Le Java Jumpit, c'est un café qui est produit par l'absorption par des singes de fèves de café et qu'ils éjectent par les voies naturelles et qu'ensuite on torréfie.
Des crottes, alors, vous achetez des crottes?
Alors, moi j'achète pas parce que j'achète pas les crottes. Le café est nettoyé quand même, Dieu merci. C'est ensuite torréfié, je vous rassure, la température enlève à peu près tous les microbes. Est-ce que c'est bon? Eh bien écoutez, c'est l'image qu'on s'en fait qui peut être bonne ou moins bonne. Ça, je vous laisse le soin d'apprécier. Et c'est pas le plus cher parce qu'on fait la même chose avec des éléphants. Et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là le Black Ivory, hein, qui est un café encore plus cher. Les cafés en dessous, enfin en dessous en termes de prix, mais pas forcément en dessous en termes de qualité gustative, vous avez évidemment ce que tout le monde connaît qui s'appelle le Jamaica Blue Mountain, qui c'est vrai est un café absolument extraordinaire, mais très cher parce que très rare, Et vous savez comme moi que le prix d'un bien n'est rien d'autre que la mesure de son degré de rareté. À partir du moment où vous savez ça, vous avez compris pourquoi jamais Guy Montaigne n'était très cher. Mais vous avez aussi d'autres cafés, notamment des cafés de La Réunion, qu'on ressort un petit peu comme ça, et qui sont de nouveau vendus et vendus très cher parce qu'il y en a très peu. Mais en termes de prix, j'allais dire, le prix n'est pas forcément déterminant de la qualité du produit. Il y a aussi et surtout la mesure de sa rareté. Bon, c'est un petit peu comme le vin, hein. Vous avez des très grands vins. Est-ce que ça vaut le coup de payer des vins à ce prix-là par rapport à des vins moins réputés? Quelquefois, en tout cas, les bonnes années peuvent être à peu près aussi bons.
Mais vous, Patrick Masson, qui l'est goûté quand vous êtes arrivé, je vous ai dit El Gringo, vous avez levé les yeux au ciel en disant tout le monde me dit ça. Vous qui l'est, c'est vrai qu'on est influencé par la publicité. Vous qui l'est goûté, quel est celui au goût, alors je vais changer un petit peu la question de Camille, qui est le plus intéressant rapport qualité-prix.
Alors rapport qualité-prix, moi j'aime beaucoup les cafés d'Afrique de l'Est, mais ça c'est vraiment une préférence personnelle. J'aime beaucoup les cafés, je vous le disais, d'Éthiopie ou de particulièrement la région de Sidamo ou son cœur qui est la Irgashéfé. Et j'aime beaucoup aussi les grands cafés du Kenya, qui sont des cafés absolument remarquables.
Vous l'avez deviné, Patrick Masson s'occupe de café. Il est directeur général de la maison Paul Jobin qui est au Havre et qui importe du café depuis, accrochez-vous, 1871. Le café est un produit merveilleux et même si vous ne l'aimez pas, vous en aimez certainement l'odeur. L'odeur du café dans une maison le matin. Est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus merveilleux au monde, juste devant ou juste derrière l'odeur du pain grillé. C'était Michael Kiwanuka, One More Night sur France Inter. Vous écoutez Les Petits Bateaux, c'est une bonne idée. Nous évoquions le café il y a un instant avec Patrick Masson à propos du café le plus cher du monde qui peut atteindre des sommets. Et c'est amusant parce que dans un café, la consommation la moins chère, c'est justement le café. Parfois, c'est d'ailleurs juste pour ça qu'on le commande. Et qu'est-ce que je dis dans un café? Et oui, un bistrot, ça s'appelle un café.
Je m'appelle Jeanne, j'ai 10 ans et je voudrais savoir pourquoi... Quand on est petit, il y a des aliments qu'on n'aime pas et quand on est plus grand, on les apprécie. Merci.
Ça, c'est vrai. Bonsoir, Jeanne. C'est Jean-Pierre Poulain qui va te répondre. Jean-Pierre Poulain, c'est drôle ce qu'elle évoque, Jeanne.
Oui, il y a plusieurs exemples. Par exemple, le café. Les enfants n'aiment pas le café.
Non.
Et ils apprennent à aimer le café. En réalité, les aliments qui ont des goûts amers, les aliments qui sont forts, les aliments qui piquent, ceux-là, on ne les aime pas spontanément. Et donc, il faut... apprendre à les aimer. Le café, moi j'ai un souvenir comme ça quand j'étais au lycée, en première ou en seconde, j'allais au café avec les grandes terminales. Et là, ils parlaient de philo, c'est un truc extraordinaire. Et ils buvaient du café, et boire du café, c'était partager quelque chose avec eux, un peu comme changer de statut, comme devenir un grand. Voilà, donc ces aliments-là, qui sont pas bons comme ça, on apprend à les aimer.
On se force un peu au début.
Voilà, on se force, et puis après, quelque chose d'étonnant, on esthétise. C'est-à-dire, on prend du plaisir à quelque chose qu'on n'aimait pas au début. Un autre souvenir, c'est la première fois où j'ai bu du vin. Je voyais les grands, là, qui buvaient du vin, qui trouvaient ça merveilleux. Et ils arrêtaient pas d'en parler, etc. Et la première fois où j'ai bu, ah, j'ai trouvé ça absolument mauvais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent trouver à ça? Et aujourd'hui, j'aime le vin. J'ai appris à boire du vin. Un autre exemple, comme ça, le piment. Il y a des sociétés dans lesquelles on apprend à manger du piment. Alors, quand on est tout petit, touche pas à ça, c'est pour les grands.
Ça pique.
Ça pique, ça fait mal. Et puis, à un moment, on va devenir un peu plus grand. Et là, alors, on va vous autoriser à manger un peu de piment. Toute la famille est réunie, vous regarde. Tout le monde sait ce qui va se passer. Mais là, on devient quelqu'un qui change de statut. Et ces aliments-là, dans l'histoire, très souvent, on les a utilisés justement pour expliquer qu'on sortait de l'enfance, pour constituer des étapes.
Comme un rituel.
Comme des rituels de passage. Mais il y a d'autres phénomènes pour lesquels on n'aime pas. Par exemple, c'est les légumes quand on est petit, c'est vraiment la corvée. L'histoire du goût, c'est une histoire très étonnante. Parce que quand on est petit, jusqu'à 3-4 ans, on mange de tout. Puis petit à petit, vers 3-4 ans, on commence à dire « je veux pas de ça, j'aime pas ça, c'est pas bon », etc. Et on voit le registre alimentaire qui se réduit. Alors ça a un nom, ça. On appelle ça la néophobie alimentaire. Elle est une étape dans le développement de l'enfant. Parce que c'est une manière d'affirmer qui il est, de contrôler ce qu'il met en lui. Et peut-être qu'à l'échelle de l'histoire de l'espèce, cet apprentissage et ses refus a protégé les individus des empoisonnements. Et puis, petit à petit, ce registre se réouvre vers 7, 8, 10 ans. Et puis, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et l'enfant se met à manger des choses que lui, il aime. Il a son propre registre. Au début, il mangeait de tout. Il a resserré son registre quand il avait entre 3 et 7 ans. Puis ensuite, il se met à manger des choses qu'il aime. Mais entre-temps, eh bien, il y a eu tout un ensemble de processus avec papa, maman, on s'est frotté les oreilles. Et il faut manger ça. Et non, moi, j'existe, etc. Et l'enfant se construit en mangeant.
Est-ce que vous pensez qu'il faut les forcer un peu, justement, goûte de tout?
Alors, ce qui se passe, c'est que si on expose un enfant plusieurs fois au même aliment, au bout d'un moment, il commence à en prendre. Et alors surtout, il y a un autre effet, c'est quand il y a des grands, ou d'autres enfants, ce qu'on appelle les pères, c'est-à-dire des enfants du même âge, et qu'il y en a qui aiment, eh bien on a des effets d'entraînement, comme ça. Mais on a des effets d'entraînement dans les deux sens. C'est bon ou c'est pas bon. Ça, ce sont des passages qui sont des passages normaux du développement de l'enfant.
C'est tout un questionnement, hein. Doit-on forcer un enfant à terminer son assiette ou pas ? Se forcer à manger, c'est presque aussi pénible que d'avoir faim. Jean-Pierre Poulain est professeur de socio-anthropologie à l'Université de Toulouse et il a dirigé le Dictionnaire des cultures alimentaires, publié aux Presses universitaires de France. Et voilà. voilà, les petits bateaux sont terminés sans être tout à fait terminés, puisque vous pouvez venir visiter notre site ou bien podcaster cette émission. Merci à Marjorie Devoucoux, à Eliane Girard, à Jean-Baptiste Audibert et à Grégory Wallon. Nous nous donnons rendez-vous ce soir pour État d'esprit. Nous parlerons de François d'Assise avec Arnaud Louvet, co-réalisateur du film L'Ami, et Virgile Tanaz, auteur d'une biographie de Saint François d'Assise chez Gallimard.